toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, 87.7 FM, disponible sur le DAB+ et radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa Sauvage. Bonjour Vanessa, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien. Il fait très beau.
Il fait beau, on
ouais,
profite.
Ouais, exactement.
Les beaux jours reviennent, ça fait plaisir.
Ça fait du bien.
Tu es libraire à Page d'encre, il me semble. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta librairie ?
Alors, donc c'est une librairie indépendante, spécialisée jeunesse, mais pas que, comme on aime bien dire souvent. C'est-à-dire avec un gros rayon jeunesse, donc des tout-petits, donc des bébés, en passant par les plus grands, les collégiens, etc., jusqu'aux grands, ados, jeunes adultes. Mais on a aussi... un rayon littérature générale qui s'adresse là plutôt aux adultes, pour le coup, qui est assez conséquent, surtout depuis qu'on a déménagé. Voilà.
Et où est-ce qu'elle est, cette librairie, alors ?
Alors, elle est tout près du Beffroi. En fait, entre la cathédrale et le Beffroi, au 9 rue des Chaudronniers. Voilà, donc dans une rue assez sympa, pour le coup, pile poil entre deux monuments assez rigolos.
D'accord. Tu as des horaires particuliers pour l'ouverture de ta librairie ?
Alors, c'est 10h, 19h tous les jours, sauf le lundi et le dimanche.
Et le dimanche.
Évidemment. Oui.
D'accord.
Mais sinon, tous les jours, du mardi au samedi, de 10h à 19h.
Et depuis quand tu es libraire et pourquoi ?
C'est une bonne question, ça. Enfin, depuis quand ça ? Je sais. Je suis libraire depuis 2011. D'abord, je suis arrivée à la librairie Page d'encre en tant que salariée, et puis ensuite, mon associé actuel, en fait, on s'est associés tous les deux il y a 9 ans maintenant.
D'accord.
Voilà. Pourquoi je suis libraire ? Parce que j'aime les livres.
Oui, ça, c'est
voilà,
évident.
Ça, c'est évident. En fait, j'étais partie sur une autre voie totalement différente au départ. J'ai fait des études de psychologie de l'enfant. Mais j'ai toujours aimé les livres, et en particulier les livres pour les enfants. Je me suis baladée beaucoup, quelque part, entre la psychologie et la littérature jeunesse. J'ai adoré faire de la psychologie, mais à un moment donné, j'ai bifurqué. Je me suis dit, il faut faire un choix. Et voilà, et du coup, je suis arrivée à Page d'encre. Voilà.
Et pourquoi tu es spécialisée principalement, du coup, dans la lecture des jeunes ?
Ben parce que je trouve ça absolument passionnant et fascinant. En fait, j'aime autant les mots que les images. Et pour le coup, la littérature jeunesse offre ça. Par exemple, en ce moment, il y a une illustratrice qui va venir à la librairie ce mois-ci, qui s'appelle Marion Duval, et on a ses originaux à la librairie. Et c'est absolument fabuleux à regarder. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a des artistes qui font des choses vraiment fabuleuses. En tout cas, moi, je suis à chaque fois éberluée devant tout le talent des artistes actuels, et aussi bien au niveau des textes que des illustrations. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a que la littérature jeunesse qui offre ça. Sachant qu'en plus, c'est vraiment un espace de création hyper riche et hyper libre, en fait, beaucoup plus que la littérature qu'on dit adulte, entre guillemets, qui a malgré tout des codes assez un peu étriqués, un petit peu coincés parfois, je trouve. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus, ces dernières années, beaucoup de personnes qui viennent éditer... qu'on appelle young adult, mais c'est de la jeunesse.
C'est pour les deux, quoi.
Voilà, en fait, c'est pour les deux, et qui ne trouvent pas forcément d'écho, ou en tout cas d'éditeurs qui pourraient les éditer en littérature classique. Parce que c'est des choses qui ne se font pas, qu'on a moins l'habitude de voir. Alors qu'en jeunesse, c'est vrai que c'est très libre, donc ça permet de faire des choses incroyables. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de l'association Librairie Sorcière ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une association nationale, mais internationale, parce qu'il y a aussi des libraires belges.
D'accord.
Dans cette association. En fait, les sorcières, alors c'est une asso qui existe depuis 40 ans, un petit peu plus de 40 ans.
Oui.
Au départ, c'était des libraires spécialisés jeunesse qui avaient à cœur de défendre vraiment la littérature jeunesse et des ouvrages de qualité, quoi. Qui ont créé cette association, que les éditeurs appellent les sorcières, parce que le slogan, c'était la lecture pour nous, c'est pas sorcier, en fait.
Donc, d'accord.
On est par extension les libraires sorcières. Et en fait, nous, on fait partie de cette association depuis... Alors, peut-être pas depuis toujours, mais voilà, depuis l'existence de Page d'encre, on en fait partie, on est dans les tout premiers. Et en fait, cette association, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la littérature jeunesse sous toutes ses formes. Et elle organise notamment les prix sorcières chaque année, qui sont un petit peu, en toute... grande modestie, un équivalent Goncourt de...
Un petit concours de la meilleure illustration, du meilleur livre jeunesse.
C'est ça, exactement. Dans différentes catégories, et c'est un prix qui est remis dans différentes villes chaque année. Voilà.
Tu viens nous parler aujourd'hui de la fête de la librairie indépendante. Est-ce que tu... Il me semble que tu organises aussi des événements à Page d'encre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
En ce moment ou d'une façon générale ?
D'une façon générale, oui, et peut-être si tu as des événements prochainement en dehors de la fête des librairies indépendantes, si tu veux partager certains événements.
Ben justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, on a Marion Duval, donc une illustratrice jeunesse qui vient, enfin autrice illustratrice d'ailleurs, qui vient à la librairie à la fin du mois. J'ai oublié quand, j'ai oublié la date précise, c'est un samedi, ce mois-ci au mois d'avril. Et du coup, c'est pas le jour de la fête des librairies indépendantes, ça doit être celui juste avant.
Bref. D'accord.
Et en fait, elle vient faire un atelier avec les enfants, proposer... on ne sait pas encore exactement quoi, parce qu'elle est encore en train de le construire, mais en tout cas, un atelier graphique, quelque chose autour du dessin ou des collages, des choses comme ça, pour les enfants à partir de 6 ans. Mm-hmm. Voilà. Et puis ensuite, il y aura une séance de dédicace, de rencontre avec elle. Enfin, voilà.
Super chouette.
Voilà. Et donc, l'exposition de ses originaux en ce moment, à voir pendant tout le mois d'avril à la librairie.
Ok. Et donc, cette fameuse fête de la librairie indépendante, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la fête des librairies indépendantes, en fait, c'est au départ une tradition catalane qui consiste à s'offrir un livre à ses amis, à sa famille, etc., aux gens qu'on aime. Depuis très longtemps, on offre un livre autour de soi. Et en fait, à partir de là, il y a pas mal d'années maintenant, cette journée du 23 avril a été déclarée la journée internationale du livre et des droits d'auteur.
Voilà. Okay.
Et en fait, la fête de la librairie indépendante en France, mais aussi en Europe d'une façon générale, alors peut-être pas partout, mais au moins en Belgique, en Espagne, etc., c'est inspiré de ça et c'est la déclinaison de cette tradition catalane au départ, en fait. Donc l'objectif, c'est de promouvoir les librairies indépendantes, ce qu'elles ont de spécifique, mais aussi, évidemment, le livre, la lecture, les droits d'auteur, etc. Voilà, et donc ce jour-là en particulier... les libraires offrent un livre à tous les clients qui passent, qui ont envie de voir ce livre, qui est spécialement édité pour l'occasion chaque année. Et cette année, c'est un recueil de poèmes de Jacques Roubaud qui va être édité, illustré par Eddie Dubien. En fait, c'est chaque année, on demande à des artistes. Que ce soit auteur ou illustrateur, de s'emparer soit d'un sujet ou quelque chose, ou de promouvoir leur travail à travers un livre que donc, les libraires offrent ce jour-là. Et la fête des librairies indépendantes, cette année, c'est le samedi 27 avril. Voilà.
Et quelles sont les caractéristiques d'une librairie indépendante ?
Alors, c'est une librairie qui n'appartient pas à un groupe. C'est un peu difficile de définir librairie indépendante puisqu'elle se définie par rapport à ce qu'elle n'est pas, plutôt, entre guillemets. C'est-à-dire, elle n'appartient pas à un groupe. Donc, c'est pas, par exemple, c'est pas la FNAC, Cultura, ou même Auchan ou ce genre d'endroit où on peut trouver des livres. C'est-à-dire que chaque librairie indépendante est spécifique. Elle choisit les livres qu'elle veut avoir et surtout, elle se constitue un fonds. Des choses qu'on va garder un fond dans une librairie, c'est évidemment, enfin, il y a des nouveautés, les choses qui sortent récemment qu'on a envie d'avoir, mais il y a aussi et surtout les livres qu'on aime et que dès qu'ils sont vendus, on recommande systématiquement. C'est ce qui s'appelle le fond d'une librairie. Et en fait, chaque librairie indépendante est unique et ressemble à ceux qui la font, aux libraires qui travaillent là, c'est-à-dire ressemble à leur goût, puisque c'est eux, c'est les libraires qui sont là, qui constituent ce fonds, en fait, et cette spécificité. Et c'est ce qui fait que, du coup, Chaque librairie est différente et c'est ce qui permet de garder cette belle diversité éditoriale qu'on a en France, en fait. Puisque chacun a des goûts différents, alors on ne trouve jamais la même chose dans aucune librairie indépendante. Et c'est ça qui est intéressant, justement.
Donc, le principe, c'est d'offrir des livres pendant, oui, pendant cette fête. Et est-ce qu'il s'y passe autre chose ?
Alors, en fait, c'est, le principe, c'est vraiment ça. C'est d'offrir un livre aux clients qui passent, mais c'est du coup d'en discuter avec les gens. Parce qu'en fait, forcément, ils nous disent « Ah bon, bah, c'est la fête de la librairie indépendante, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ?» Enfin, voilà, le but, c'est ça, c'est de découvrir un petit peu la spécificité des librairies indépendantes et d'en parler avec nos clients, en fait. Enfin, voilà, de leur faire découvrir ce genre de choses-là. C'est une occasion de plus, je dirais, de discuter avec eux, même si... on a la chance d'être une librairie qui a des clients fidèles, ce qui est chouette, et du coup qui s'intéresse d'une façon générale au sort, entre guillemets, des librairies indépendantes et des commerces de proximité en général, en fait. Mmh. Et ils sont plutôt au fait de ces choses-là, en général. Mais voilà, c'est surtout l'occasion, évidemment, de promouvoir la lecture et le livre au niveau national, d'en parler sur les différents médias qui existent. Et pour nous, c'est clairement l'occasion de faire plaisir à nos clients en leur offrant ce livre qui est édité spécialement chaque année et du coup, d'en discuter un petit peu avec eux, quoi.
Un échange de livres et un échange tout court.
Ouais, c'est ça, exactement.
Super.
Exactement.
Combien de libraires participent, du coup ? Est-ce que tu sais combien de libraires participent cette année ?
Alors, il me semble avoir vu passer 500 comme chiffre. Parce que
c'est dans toute la France, ouais, du coup ?
Le CNL, qui est le Centre National du Livre, forcément relaie beaucoup cette information. Et il me semble bien avoir vu marquer plus de 500 librairies partout en France et en Belgique.
Et sur Amiens, tu sais à peu près qui participera à cette fête ?
Bah, j'imagine les librairies indépendantes. Donc évidemment la nôtre, la librairie Martel, la librairie du Labyrinthe.
D'accord.
Sans doute Bulle en Stock aussi.
Ok.
Les autres, je ne sais pas.
D'accord. Parce qu'il y en a quand même pas mal à Amiens, ouais, des librairies, oui, indépendantes. Et quel autre libraire, justement, tu nous conseillerais sur Amiens qui, justement, ne chercherait pas forcément de la lecture jeunesse que toi, tu proposes. Toi, personnellement, par rapport à ce que tu lis au quotidien, tu nous conseillerais d'aller où à Amiens, en dehors de Page d'encre, évidemment.
Évidemment.
D'abord, venez d'abord à Page d'encre.
Après, on aime bien, évidemment, je préfère quand les gens achètent leurs livres chez moi, c'est une évidence, mais on n'est pas vraiment en concurrence avec les autres librairies indépendantes, dans le sens où on ne propose pas la même chose. Mmh. Et moi, je suis très contente quand des gens me disent bah, c'est Philippe du Labyrinthe qui m'envoie, et moi, j'envoie des gens chez Philippe du Labyrinthe, et vice versa, en fait. Voilà, tout à fait. Ou après, à Bulle en Stock, beaucoup aussi. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Si c'est plutôt de la littérature adulte ou, pourquoi pas, des éditions locales, des choses du coin, bah, plutôt la librairie du Labyrinthe qui propose ce genre d'assortiment hyper riche et hyper intéressant. Si c'est plutôt BD ou manga, là, il faut aller chez Bulle en Stock, qui, oui, a effectivement une grande
forcément
diversité d'offres aussi. Ouais, ouais, tout à fait.
À la librairie Page d'encre, qu'est-ce que tu as prévu pour la journée du 27 avril ?
D'être toujours content et toujours joyeux et de discuter à fond avec nos clients. Rien de particulier, en fait, pour ce jour-là.
Accueil des clients, ouais, et un échange, ouais, un échange de bouquins.
Et un échange de bouquins, beaucoup de conseils, parce qu'on fait beaucoup de conseils. Peut-être un peu plus ce jour-là, justement, parce qu'on met cette journée internationale en avant, donc les gens nous posent des questions et donc forcément...
Vous êtes plus disponible que d'habitude.
Je ne sais pas si on est plus disponible, on essaye de l'être au maximum tout le temps, mais eux sont peut-être amenés à nous poser davantage de questions et donc des gens qui ne seraient peut-être pas habitués ou peu habitués à demander conseil le font peut-être plus spontanément, plus facilement. Donc voilà, mais sinon rien de particulier, c'est une journée normale pour nous, si ce n'est que c'est une journée où on est content parce qu'on met en avant les librairies, mais voilà, il n'y a pas d'événement particulier par rapport à ça, quoi. Après, ça fait toujours plaisir aux gens quand ils n'étaient pas forcément au courant de cette fête et que une fois qu'ils ont choisi leur livre, on leur offre en plus ce livre-là, ils disent, oh, super, ça fait une petite surprise en plus, hein, c'est toujours chouette, quoi.
Carrément.
Voilà.
Pour terminer, est-ce que tu aurais un coup de cœur en ce moment à nous partager ? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui pourrait attirer nos auditeurs ?
J'ai lu mon dernier gros coup de cœur. En fait, c'est... je suis nulle en titre.
Oh bah mince.
Ah ouais, non, ça c'est infernal. Je vois très bien les couvertures et tout, mais les titres, c'est une catastrophe. Ça s'appelle La plus grande. Voilà, c'est ça. C'est un roman ado, mais pas que. Ça peut être lu aussi par des adultes, pourquoi pas. La plus grande, c'est de Davide Morosinotto et c'est sorti à l'école des loisirs. C'est l'histoire vraie, en plus, de Shinchi qui a vécu au XVIIIe siècle en Chine, qui était, alors au début de l'histoire, c'est une petite fille. Elle a 6-7 ans, il me semble. Elle est orpheline. Elle a été recueillie par un restaurateur assez horrible, en fait, qui l'exploite, qui n'hésite pas à la fouetter quand elle ne va pas assez vite. Enfin, elle n'a pas une vie très rigolote et très facile. Mmh. Jusqu'au jour où, en fait, il y a dans le petit restaurant un jeune garçon qui est là et elle trébuche avec son plateau rempli de vaisselle. Et lui, de façon tout à fait inattendue, va rattraper chacune des tasses, chacune des assiettes, tout. En plus dans une espèce de chorégraphie incroyable. Et elle est complètement subjuguée par ça. Elle se demande comment est-ce qu'il a fait pour réussir à faire ça. Elle va le suivre. Et en fait, ce jeune garçon est apprenti chez un maître dans les arts martiaux.
D'accord.
Quelqu'un qui lui apprend des mouvements, des choses incroyables. Et elle va demander à ce maître de la former. Voilà. Elle va se révéler hyper douée pour ça et découvrir tout un pan de la culture, de cette culture-là qu'elle ne connaissait pas. Et puis les années passent, elle se perfectionne, etc., jusqu'au jour où elle va être enlevée par des pirates. Et à cette époque, elle est toute jeune quand elle se fait enlever, elle doit avoir 13 ans, il me semble. Mm-hmm. Une jeune fille sur un bateau de pirates, c'est pas de très bon augure. Et ils vont décider soit de lui faire beaucoup de mal, soit de la jeter à l'eau, ils hésitent un peu. Mais devant son caractère impétueux et sa force de caractère incroyable, son courage, et effectivement... ces espèces de mouvements qu'ils ne connaissent pas et qu'elle fait qui les fascinent, le capitaine va décider plutôt de la garder et essayer de voir ce qu'elle va donner. Et à partir de là, c'est un périple. Ça raconte toute sa vie sur des années et des années. Et en fait, c'est la légende de Shinchi qui donc a vraiment existé et qui est devenue la plus grande femme pirate de tous les temps, à la tête de milliers d'hommes de pirates et qui a dévasté la mer de Chine. Enfin, c'est absolument passionnant, c'est hyper bien écrit, enfin, c'est une histoire incroyable.
Comment il s'appelle, tu as dit ?
La plus grande.
La plus grande.
Ouais.
Eh ben, venez acheter La plus grande à Page d'encre. Venez voir Vanessa.
Ça marche, sans problème.
Eh ben, merci à toi d'être venue nous parler de cette belle librairie indépendante et de cette fameuse fête du coup, qui aura lieu, je le rappelle, le 27 avril dans les librairies indépendantes d'Amiens.
Voilà. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Avec plaisir.
À bientôt.
Vous venez d'écouter l'interview de Vanessa Sauvage de la librairie Page d'encre. Elle était venue donc nous parler de sa librairie ainsi que de la fête des librairies indépendantes qui aura lieu le 27 avril prochain. Tout de suite, on enchaîne avec le cinquième et dernier épisode de la série Au cœur du COP, réalisé par Hugo, étudiant master de journalisme à l'UPJV.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui vient de se passer au stade du Heysel à Bruxelles est à la fois ahurissant, dramatique et révoltant.
Au cœur du COP, épisode 5. Temps additionnel. Bienvenue dans ce dernier volet de Au cœur du COP. Au fil des épisodes, nous avons traversé l'histoire du supporterisme, exploré ses diverses expressions à travers le monde et plongé dans l'essence même de cette passion dévorante. Au commencement de cette aventure radiophonique, le tout premier épisode nous a invités à définir la notion de supporter. Le lien spécial qui unit les fans à leur équipe a été décrit comme une connexion indéfectible, une flamme qui s'allume à chaque pas des héros en maillot sur le terrain. L'intrigue a été posée. Qu'est-ce qui alimente réellement cette passion dévorante qui consume les cœurs des supporters ? Le deuxième épisode nous a conduit sur la piste des exemples. des anecdotes de supporters qui définissent la passion à des degrés variés, des voyageurs infatigables comme Zato, qui a parcouru des millions de kilomètres pour voir 16 000 matchs en 34 ans, aux amoureux prêts à entreprendre un pèlerinage de 800 km sur un scooter pour tenir une promesse faite lors de leur mariage. Chaque histoire a ajouté une couche de complexité à la compréhension du supporterisme. Puis, le récit s'est tourné vers des moments plus sombres et tragiques, des histoires comme celle de Christopher Jacome, dont le cercueil a été ramené dans les tribunes pour respecter sa dernière volonté, ou celle de la violence déchaînée après une expulsion lors d'un match au Brésil, des événements qui ont souligné que parfois la passion peut prendre des tournures tragiques. Le troisième épisode a introduit quant à lui une dimension académique à notre exploration en apportant le point de vue d'experts tels que Paul Bartolucci, docteur en sociologie. Ses travaux ont éclairé les origines ouvrières et culturelles du hooliganisme, tout en soulignant l'importance des ultras dans la préservation de l'authenticité et de la passion du football face à la mondialisation et la professionnalisation du sport. Dans le quatrième épisode, l'attention s'est tournée vers l'atmosphère électrique des tribunes, là où la passion des supporters atteint son paroxysme. À travers des entretiens avec des supporters passionnés et même le chef anonyme d'un groupe d'ultra, nous avons pu ressentir la magie qui opère lors de chaque rencontre sportive. Ces moments d'intimité ont permis de comprendre les motivations profondes qui animent les supporters, du simple passionné aux ultra engagés. Mais être supporter de football peut revêtir différentes significations et motivations pour chaque individu. Les supporters peuvent développer un lien émotionnel fort avec leur équipe. Cela peut être lié à des souvenirs d'enfance, des expériences partagées avec la famille ou les amis, ou même à une identification avec les valeurs ou la culture de l'équipe. Le football crée également une communauté de supporters qui partagent la même passion. Soutenir une équipe peut fournir un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, où les individus partagent des émotions, des célébrations et des défaites ensemble. D'autres personnes recherchent dans le football des moments de suspense. Le simple fait de regarder un match peut être une expérience forte en rebondissement. Pour d'autres, le soutien à une équipe de football peut être une tradition transmise de génération en génération au sein de la famille. Cela crée un lien familial et renforce le sens de l'identité. Tout comme il y a également parfois un sentiment de fierté envers sa région, sa ville ou son pays. Le succès d'une équipe peut être perçu comme une réalisation collective qui renforce encore une fois le sentiment d'identité. Prenez pour exemple la Coupe du Monde 1998, ou même plus récemment la Coupe du Monde 2018, où des dizaines de milliers de Français qui d'ordinaire ne s'intéressent pas au football se sont découverts supporters. Pour beaucoup, le football offre également une échappatoire aux soucis quotidiens. Le fait de se plonger dans un match permet de mettre de côté les préoccupations quotidiennes et de se concentrer sur quelque chose de plus passionnant. En fin de compte, être supporter de football, c'est une expérience personnelle et chacun peut avoir des raisons différentes pour soutenir une équipe. C'est souvent une combinaison complexe de facteurs émotionnels, sociaux et culturels. Mais le mot de la fin, il vous revient, chers auditeurs. Qu'est-ce qu'être supporter selon vous? Que vous en soyez un ou une, ou que vous ayez un regard extérieur sur la chose. C'est la fin de cette série de podcasts. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de Au cœur du COP. Merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté. À la prochaine pour une nouvelle investigation.